Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Guy Bruy, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous avez animé pendant des années, à ma place, les émissions de radio de l'Union rationaliste. Et vous êtes aujourd'hui, et ce depuis quelque temps déjà, directeur de la revue Raison Présente. Et une fois n'est pas coutume, nous allons consacrer cette émission à l'histoire de la revue Raison Présente et à son devenir, à son actualité. Et nous allons aujourd'hui faire place à une réflexion sur la nécessité de ces pauses absolument singulières que sont ces périodes de réflexion que nous avons dans les revues, où l'on prend le temps de lire, de réfléchir et de penser. Quelle est l'origine de cette revue rationaliste et quelle est sa nécessité ?
D'abord, je précise que je suis co-directeur puisque nous sommes trois à diriger cette revue, Gabriel Gault, Christian Ruby et moi, depuis 2004. Voilà.
Très important.
Alors, je ne vais pas retracer l'histoire de la revue Raison Présente, mais je vais tout de même dire quelques mots pour rappeler ses origines. Le désir de Victor Leduc de fonder une nouvelle revue s'est enraciné dans un temps où, avec certains de ses camarades, je dis bien camarades, il tente de se libérer d'un dogmatisme qu'il a vécu au cours de sa longue vie militante. Et en 1965, sa route croise celle d'Ernest Kahan, alors secrétaire de l'Union rationaliste, et qui fut, j'insiste, un grand secrétaire de l'Union rationaliste, secrétaire général, et qui souhaitait élargir et approfondir le champ de la réflexion philosophique et scientifique des rationalistes. Il confia alors à Leduc la responsabilité d'un groupe d'études auquel participèrent des intellectuels comme Maurice Cavaingue, Maurice Godelier, Yves Gallifrey, René Zazot et, un peu à côté, Jean-Pierre Vigier. Ainsi, des liens étroits se nouèrent et, quand à la fin de 1966, Raison Présente fut créée, une revue qui a donc 45 ans,
oui.
Ce qui est bien,
oui.
Ce furent les éditions rationalistes qui en assurèrent la publication. Le premier comité de rédaction, dirigé bien sûr par Victor Leduc, comprenait entre autres Ernest Kahan, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, et à la demande de Victor Leduc, un jeune historien des sciences, Gabriel Gault, entra dans ce premier comité de rédaction, donc il est devenu co-directeur. S'inscrivant dans la tradition des Lumières et des encyclopédistes, Victor Leduc souhaitait que soient abordés dans la revue les grands problèmes sur lesquels s'interrogent les hommes de notre époque. Et l'arme pour aborder ces questions devait être l'exercice d'une raison critique sans tabou ni étroitesse sectaire.
Peut-être il faudrait que vous disiez un mot aux auditeurs de cette figure centrale qui était Victor Leduc. Et comment pourriez-vous le caractériser ?
Oui, alors en effet c'est important puisque Victor Leduc, qui était professeur de philosophie au lycée Lavoisier d'ailleurs, était donc philosophe de formation, mais c'était aussi un militant politique qui avait eu des responsabilités importantes au Parti communiste, puisqu'il avait été un temps responsable de la section idéologique. D'autre part, c'était, avec son ami Vernant, un grand résistant, donc c'est une personnalité philosophique, politique d'une grande envergure. Non. Et Leduc, là je parle un peu personnellement, Leduc, je crois, avait besoin d'une revue pour vivre parce qu'il pensait que c'était un support indispensable pour faire passer ses idées. Et il avait été, dans un temps ancien, un des animateurs de la revue Action, qui était sortie de la Résistance. Puis il a participé à la Nouvelle Critique, qui était une revue militante du Parti communiste, avec laquelle ça ne s'est pas bien terminé. Et puis il a fondé une revue qui s'appelait Voix Nouvelle, qui a eu 9 numéros tout à la fin des années 50. et qui se voulait un organe de réflexion et d'approfondissement théorique du marxisme. Et moi, je situe le projet de Leduc, quand il a créé Raison Présente, dans la lignée, dans la ligne de Voix Nouvelle, mais dans des conditions qui avaient beaucoup changé, qui n'étaient plus les mêmes.
Ce que Raison Présente avait de spécifique, me semble-t-il, c'est que justement, il n'était pas l'organe du Parti communiste du tout. Et justement, la réflexion rationaliste ici se libérait de tout appareil dogmatique.
Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je crois, il a la rencontre avec Ernest Cahan, qui avait, dans la perspective uniquement de l'Union rationaliste, qui avait quand même la même idée d'un élargissement et d'un approfondissement de la réflexion théorique. Ça s'est très bien passé et ça a permis la création de la revue.
À la mort de Leduc, que se passe-t-il ?
Alors, à la mort de Leduc, il faut lui trouver un successeur. Merci. Et c'est Jean-Paul Thomas qui, pendant une dizaine d'années, je crois, a dirigé Raison Présente. Puis il a souhaité que le relais soit pris et c'est comme ça que un triumvirat a été nommé.
Avec un littéraire, un homme de science et un philosophe.
Oui,
triumvirat bien équilibré pour le rationalisme.
Oui, ça se passe bien.
Alors, justement, ce triumvirat essaye d'être dans la lignée de ce que Victor Leduc et Jean-Paul Thomas ont essayé d'infléchir dans cette revue. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous dire, par quelques exemples, comment la revue que vous dirigez tous les trois aujourd'hui, s'oriente.
Oui, ce que je voudrais montrer, aussi brièvement que ce sera possible, c'est que cette revue est bien vivante. Nous avons une fâcheuse tendance, certains d'entre nous, à vivre un peu de la nostalgie des premières années de la revue, c'est-à-dire 66 et suivantes, où on pouvait remplir un amphithéâtre de la Sorbonne au cours d'une réunion avec Jean Piaget, ou sur la psychologie qui avait été animée par René Zazo. Il y avait aussi une mémorable soirée sur l'aliénation avec Henri Lefebvre et Paul Ricoeur notamment. Alors essayer de faire de remplir un amphithéâtre de la Sorbonne aujourd'hui en parlant de l'aliénation, je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien.
Les temps changent.
Les temps changent et justement, il ne faut pas s'apesantir là-dessus. Alors le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'un numéro qui remonte à l'année 1993. Ça s'appelait, c'est le numéro 106, qui s'appelait Raison et des raisons au singulier dans l'écologie. Cet numéro avait été présenté et conçu par Christian Ruby déjà. Et c'était un numéro qui était plutôt en avance.
Bien sûr.
Parce que de nos jours, le souci de l'environnement a envahi les cabinets ministériels, pas nécessairement pour le meilleur. Et le dossier qui était présenté abordait la question de l'écologie et de la nécessité d'une réflexion rationaliste sous les trois aspects des sciences, de la politique et de la philosophie. Et il y avait une remarque extrêmement importante, c'était que nous vivions un moment où notre rapport à la nature était en train de se transformer en profondeur. Alors que jusqu'à présent, notre humanisme était fondé sur une problématique de l'homme dans la société, nous étions en train de passer alors, et peut-être en n'en ayant pas toujours clairement conscience, à une nouvelle problématique qui était l'homme dans la nature. Au moment où commençait à se faire jour ce déplacement, la revue s'emparait donc d'un grand problème, une grande question de notre temps, et elle s'efforçait d'éclairer de nouveaux chemins. Alors j'ajoute que ce numéro n'est pas dépassé et qu'il arrive qu'on nous le demande encore. Pour lire quelque chose, pour réfléchir à quelque chose, il faut se donner du mal. Une lecture n'a pas à être une lecture facile. C'est un reproche qu'on a souvent fait à la revue. C'est difficile. Bah oui, les questions sont difficiles. Il faut se donner du mal. Et nous essayons d'écrire de mieux en mieux et d'une manière accessible à tout le monde.
Oui, alors, d'autant plus que nous vivons une période de zapping,
oui,
où justement les choses sont abordées dans l'immédiateté, dans la rapidité, sans la nécessité d'un temps de réflexion, d'analyse, d'approfondissement.
C'est ça, et nous aimerions donner à un public jeune notamment, qui est prêt encore à lire, des instruments pour réfléchir sur notre temps. Alors j'ai reparcouru les 5 dernières années pour nous y limiter et j'ai essayé de classer un peu les questions que nous avons abordées. Bon, il y a eu la culture. Alors ce qu'on appelle la culture, parce qu'il y a plusieurs acceptions et nous préparons un numéro, nous envisageons un numéro sur l'anthropologie et peut-être la culture pourrait être abordée sous un éclairage différent de celui qui consiste à dire être cultivé, c'est connaître le plus de choses possible, d'accumuler. Alors, je cite quelques titres. Les mutations de la sphère culturelle, c'était le numéro 160. Culture, savoir et connaissance, qui était un colloque de l'Union rationaliste que nous avions publié. Pour une étude de la médiation culturelle, c'est l'avant-dernier numéro.
Un numéro très récent. Médiation culturelle qui a un succès considérable auprès des jeunes générations.
Oui,
tout le monde veut être médiateur
c'est
culturel.
Ça. Et nous n'oublions pas la science parce que certains nous reprochent de ne pas être assez attentifs aux sciences. Ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas oublier que nous sommes une revue généraliste. Mm-hmm. Donc la science, les sciences sont nécessairement abordées dans le cadre d'une revue généraliste qui touche un grand public et non un public de spécialistes. Ce qui n'empêche pas de publier des choses tout à fait sérieuses. Bon. Alors, il y a les numéros sur débats scientifiques et choix de société, science et laïcité, savoir, connaître, agir.
Bon, Tous les thèmes qui sont aussi les thèmes propres à l'Union rationaliste.
Ce sont les mêmes, hein. Cette revue est rationaliste, les fondateurs étaient des rationalistes, tout le monde au comité de rédaction n'est pas à l'Union rationaliste, mais tout le monde est rationaliste. Et je renvoie à un article d'Ernest Kahan dans le dictionnaire rationaliste qui avait été publié en 64, où Ernest Kahan disait malicieusement qu'il y avait des rationalistes qui n'étaient pas membres de l'UR et que, d'autre part, il y avait des membres de l'UR qui n'étaient pas rationalistes, mais dont on pouvait espérer qu'ils le deviendraient.
Alors, en plus du thème sur l'histoire que fréquemment vous abordez à raison présente, il y a deux thèmes particuliers où les problèmes actuels apparaissent. C'est à la fois le thème de la question du racisme.
Oui.
Et puis, le thème du rapport au social ou aux rapports sociaux.
Oui, peut-être plus largement la question des rapports sociaux et de leur articulation, de l'articulation de différents domaines qu'on a souvent tendance à traiter à part les uns des autres. Ces deux numéros qui sont assez récents, c'est « Racisme, race et sciences sociales » et d'autre part, celui qui vient de sortir là, ces jours-ci, le 178... Oui, qui s'appelle « Articuler les rapports sociaux, classe, sexe et race ». Ça amorce donc une réflexion neuve sur cette question des articulations. Et parmi les questions neuves, il y a celle du genre. Alors c'est tout à fait d'actualité, parce que si vous avez lu le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, Monde des livres, il y a un entretien avec une historienne du mouvement féministe qui dit qu'il faudrait introduire l'histoire du genre dans les programmes, alors non pas pour faire du prosélytisme, mais pour sortir de cette façon d'aborder l'histoire des femmes qui est toujours écrite au masculin.
Mais bien sûr. Alors,
Donc, les questions abordées dans ces deux numéros animés par Roland de Pfefferkorn sont tout à fait liées à l'actualité.
Je voulais juste, Guy, vous interrompre et vous signaler qu'il y avait maintenant des instituts qui prenaient comme thème de réflexion et d'enseignement l'histoire du genre. À Sciences Po, nous avons monté un programme Présage très important. Alors, Pour conclure peut-être, Guy, oui. Quels seraient ou quels sont les projets de Raison Présente?
Alors, les projets, ben, y a un numéro art et sciences qui va paraître au mois de septembre et beaucoup de candidats au baccalauréat regretteront de ne pas avoir pu en avoir connaissance puisque ça a été un des sujets du bac de cette année. On prépare aussi un numéro sur le cinéma et un numéro sur le monde arabe aujourd'hui, très important, et aussi un numéro qui sera un numéro d'épistémologie dénonçant toutes les formes de réductionnisme qui empêchent précisément de saisir la totalité des réalités.
Alors, avant de clore cette émission, je voudrais peut-être, Guy Bruit, que vous nous fassiez un commentaire de ce titre magnifique, Raison Présente, et que vous nous expliquiez ce qui est pour vous l'actualité du rationalisme.
Oui. Alors, je n'ai pas assisté à la naissance du titre. Je sais que les créateurs de la revue se sont interrogés longuement là-dessus, et puis un jour ils ont dû avoir une évidence et ils se sont dit, ben oui, ce qui est important, c'est pas la raison en général désincarnée, transhistorique, c'est la raison dans le temps que nous vivons et sa présence active et critique. Voilà, alors ils ont dit raison présente. Et c'est ça le rationalisme, c'est-à-dire s'emparer de tout ce que nous avons à affronter. Il n'y a pas de sujet rationaliste, il y a une façon rationaliste d'aborder les problèmes. Voilà, et c'est ce que nous nous efforçons de faire.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Guy Bruit, je vous remercie.
Merci.
Alors, nous l'avons cité, le dernier numéro de Raison Présente, le numéro 178, s'intitule « Articuler les rapports sociaux, classe, sexe et race ». Et je rappelle que le numéro des cahiers rationalistes ce mois-ci...
Oui, alors, se rattache tout à fait à ce sur quoi nous venons de conclure, c'est-à-dire qu'il contient les discours, si je puis dire, de réception à la petite cérémonie de remise du prix de l'Union rationaliste à Michel Perrault, qui est une des historiennes fondatrices des études féministes et du genre.
Je remercie Claude Nior et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission et je vous donne rendez-vous au mois prochain où avec François Nolin, nous recevrons Hubert Krivine.